Il y a toujours de bons conseils.
10% de ta paye, drette dans un CELI.
Il m'a parlé d'une radio.
Connais-tu ça, Boulevard 102?
Je lui ai dit que non. Il m'a dit...
Ah non, faut que t'écoutes ça.
Bref, maintenant j'écoute Boulevard 102. Merci, Jean-Steve.
Boulevard 102.1. Gravel.
Hello.
Faut se mettre dans l'ambiance.
Gravel dans le retour. Avec Denis, Véro et Audrey.
Merci d'être des nôtres à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour. Je vous rappelle le numéro pour les textos. Si vous avez des questions, 418-971-1021. S'il y a quoi que ce soit à signaler sur les routes ou ailleurs, c'est le même numéro, 971-1021. Dans le 418, le maire Bruno Marchand est en studio avec nous. Monsieur le maire, bonjour.
Salut à vous trois.
Comment ça va?
C'est une bonne semaine.
Bonne semaine?
Oui, c'est une bonne semaine.
Je disais tantôt, on jasait d'actualité, puis on disait que le politicien avait pas ça facile. Au fédéral, au provincial, au municipal, on sent une morosité, ouais. Une grogne, la sentez-vous?
Bien, les sondeurs disent ça aussi.
Ouais.
C'est dur à dire, parce que moi, je suis là depuis 3 ans, mais les gens disent qu'il y a vraiment une évolution post-pandémie qui est... Il y a une grogne où les politiciens en mangent une sincère.
Avez-vous l'impression d'en manger une sincère présentement?
Ouais, oui et non, dans le sens que la politique municipale, c'est encore pire que les autres.
Pourquoi?
Parce que tu es proche du monde, parce que tu vois le monde tout le temps. Il y a un président américain qui s'appelait Lyndon Johnson qui avait dit « Dans mes jours les plus sombres, quand ça va vraiment mal, je me dis ça pourrait être pire, je pourrais être le maire d'une ville. » Mais tu vois, les gens, tu peux pas fuir, là.
Avez-vous l'impression
c'est correct.
Avez-vous l'impression que depuis le début de votre mandat, c'est comme le pire passage, depuis que vous êtes maire?
Non, il y en a eu d'autres. C'en est un bon.
Oui, je suis capable d'en nommer plusieurs, là, de mémoire.
Oui, c'est ça. Non, il y en a eu d'autres. Les gens vont pouvoir décider aux élections, mais on a toujours amené cette idée qu'on ne ferait pas de la politique en cachant les choses, qu'on dirait ce qui était, puis qu'on ne jouerait pas le calendrier électoral. Alors, bien des gens nous ont dit, bien, attendez, si vous voulez mettre une taxe, attendez la première année si vous êtes réélu, comme ça, c'est le livre politique. 4 ans plus tard, les gens ne s'en souviennent pas. Moi, je ne veux pas être ce politicien-là.
Parlons-en. Vous avez triplé la taxe sur l'immatriculation à Québec. Ça amène beaucoup de grogne, ça amène beaucoup de questionnements.
Il y a des gens pas contents, puis c'est normal.
Et on leur dit quoi à ces gens-là? Puis on l'explique et on le justifie comment,
c'est
surtout?
Ça, exact. Pour arriver ici, je suis passé par Laurentien. Là. C'est bouché, 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 puis je ne sais pas jusqu'à quelle hauteur, mais sûrement jusqu'à de la fonte, puis probablement encore plus. On me dit qu'Henri IV, c'est la même chose présentement. Là. Des gens qui nous écoutent, qui sont pognés dans le trafic. Alors, c'est pas juste parce qu'il y a un accident sur Laurentien. Là. C'était comme ça un matin, c'était comme ça hier, c'était comme ça la semaine passée. Le trafic, c'est l'asile, ça augmente. Les gens, c'est pas une perception. Là. C'est pas parce qu'il y a une tempête de neige, c'est pas un cas particulier. Ça augmente, ça va continuer d'augmenter. On a accueilli en 2023, puis c'est une des raisons, 22 000 personnes de plus dans la région. Des gens qui viennent du Québec et d'ailleurs. Et ces gens-là, ils se déplacent. Qu'est-ce qui arrive? Bien, il y a du monde aujourd'hui qui vont dire « Marchand, c'est un écœurant, il vous charge 60$ de plus. » Parfait. C'est quoi ta solution? Parce que moi, je refuse que le monde reste pris dans le trafic. Je refuse que le monde perde leur temps dans le trafic. Je refuse que ça soit du temps de travail, du temps familial, que ça soit des biens marchandises qui nous coûtent plus cher parce que ça prend plus de temps à les voyager. Je refuse que pour les entreprises, ça soit un problème. Je refuse le statu quo.
Est-ce que je comprends qu'un des objectifs de cette taxe-là, c'est de prendre des gens qui n'ont pas les moyens de la payer puis de les pousser vers les autobus puis à renoncer peut-être à une voiture sur deux? Est-ce que c'est un objectif ouvert, ça?
Non, pas vraiment. Parce que avant que tu renonces à une voiture, ça veut dire que tu passes de... J'utilise ma voiture puis je passe tout le temps en transport en commun. Moi, je pense pas qu'on est là. Mais je pense qu'on est capable de dire aux gens, puis on a dit, cette taxe-là, on va faire 4 choses pour améliorer. On va faire des métrobus dans la couronne nord, au nord de la capitale, pour les gens qui habitent dans le nord de la ville. Le premier, c'est Val-Bélair-Québec. Après, puis il va passer par le Bourgneuf. La deuxième chose qu'on va faire, on va faire du Flexibus. Le Flexibus, ceux qui ne le connaissent pas, c'est du transport à la demande. Tu as une application, tu demandes un transport pour aller dans une zone, il ne t'amène pas n'importe où en ville. Si tu es à Loretteville, il te reste dans Haute-Saint-Charles, tu peux aller à la pharmacie, tu peux aller à l'aréna, tu peux aller où tu veux, à la demande. Et après ça, si tu veux sortir de ta zone, on va t'amener vers des bus qui, eux, vont se déplacer plus rapidement. On va créer un parc au bus, le premier au Lac-Saint-Charles. À chaque année, on va créer ça. Puis en plus, on va mettre du à vélo dans le nord de la ville et à l'ouest. Le premier est à Cap-Rouge. Chaque année, on va rajouter une zone Flexibus, du à vélo dans la banlieue. On va rajouter aussi le métrobus et des parcobus. Chaque année, on va faire ça. Donc, il y a quelque chose qui est en retour de ce qu'on demande.
On a
quelque chose pour la mobilité pour les gens du Nord.
Dans les 10 dernières années, on a commencé à bonifier puis à articuler le réseau du RTC, mais la hausse de l'achalandage, elle n'a pas suivi. Je regardais vos objectifs pour les prochaines années.
10%.
C'est énorme.
Mais elle n'a pas suivi. C'est parce que là, il y a eu une petite pandémie qui a changé les choses. Mais depuis la pandémie, on a recouvré plus que d'autres sociétés de transport le taux de gens qui prennent les transports collectifs, plus que d'autres sociétés de transport au Québec. Mais les gens, ils nous disent quoi? Ils nous disent on veut que ça marche, ça soit efficace, ça soit rapide. Présentement, ouais. Si tu pars de Val-Bélair puis tu veux t'en venir en autobus à Sainte-Foy, mettons, il faut que tu prennes 2-3 bus. À part si tu es sur l'Express, là, c'est 2-3 bus, puis ça va te prendre une heure.
Ça prend combien de temps, métro-bus, selon vous?
Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire 15 à 20 minutes. Mais tu vas prendre un bus, 15 à 20 minutes de moins.
Je trouve ça hyper
noble.
Puis
il va passer souvent.
Puis on a eu la conversation avec des auditeurs cette semaine de c'est quoi les besoins. Puis parmi ceux qui nous ont écrit qui prenaient les autobus, il y a un service qui pour eux est franchement utile. Puis c'est plate, mais c'est pas le 15 minutes qui sauve avec le métrobus. Parce que souvent, on va se rendre compte que si tu ajustes tes horaires en dehors des heures de pointe, un circuit qui va prendre 45 minutes en métrobus va prendre 16 minutes en voiture. Fait que là, c'est beaucoup plus qu'un 15 minutes sauvé. On nous a parlé énormément des express. Mais que le principal problème avec les express, c'est qu'ils n'étaient pas fiables. Puis on l'a vu, il y a eu des chiffres qui ont été dévoilés un petit peu plus tôt cette année. Je trouve ça super noble de dire, hey, on va essayer de vous en donner plus vite. Mais il y a des limites à ce qu'on peut faire aussi avec un métrobus.
Bien, il y a des limites à ce qu'on peut faire.
En fait, de gagner du temps.
Oui, là. Mais on est en train de reviser les parcours. On est en train de revoir comment on peut faire pour améliorer le gain de temps.
Mais ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire depuis
là,
des années,
par
exemple.
Présentement, le 16 minutes dont tu me parles, là, ça, c'est quand il n'y a pas de trafic.
Ça va être sur l'heure du midi, puis c'est vrai, mais il y a des gens qui s'arrangent pour partir plus tôt. Il y a des gens qui...
Mais ça va rester. On n'est pas en train de dire aux gens, vous allez prendre l'autobus. On est en train de dire aux gens, on va vous offrir des options. Ça se peut que lundi, ça ne te tente pas, tu n'en aies pas besoin parce que tu rentres au travail à midi pour X raisons qui t'appartiennent, tu as fait du télétravail le matin, je ne le sais pas. Quand on dit avec le crédit qu'on va donner, qui équivaut à 30 $ l'équivalent de 8 billets pour toute personne qui va payer son immatriculation, mais tu vas pouvoir l'utiliser quand tu veux. Je suis pas en train de te dire, prends-le tous les jours. Moi, je le prends pas tous les jours. On n'a pas besoin de ça. Pour améliorer la fluidité, là, on n'a pas besoin que tout le monde le prenne tout le temps. On n'a pas besoin que 50 % des gens de Québec le prennent. Il y a des gens qui le prendront pas. Mais il y a des gens qui vont l'essayer, qui vont dire, hey, une journée par semaine, une journée par deux semaines, c'est bon pour moi parce que ça marche. Je gagne du temps, je suis tranquille dans l'autobus, je sauve de l'essence. Puis ultimement, je suis pas en train d'abandonner une voiture, parce qu'on sait qu'une voiture, c'est cher, c'est 11 000 $ par année minimum. Mais je suis en train de dire, cette journée-là, c'est possible, ça m'aide, ça me convient, moi, ce mardi-là. Toi, c'est d'autres choses, toi, c'est un autre moment de l'année. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Les gens vont continuer de prendre leur voiture. Mon but, c'est pas de dire, vous allez arrêter de prendre votre voiture, mais c'est de dire, on va te donner de la fluidité.
Monsieur Marchand, je vous ai entendu dire à plusieurs reprises qu'on était pris à la gorge financièrement, puis c'est pour ça qu'on allait chercher cet argent-là de cette façon-là. Il y a des audits de performance qui s'en viennent sur le RTC. Moi, je compare ça à un bulletin de fin de session. Est-ce qu'on aurait pu attendre ces résultats-là avant de nous dire qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre financière? Parce que si le RTC gère mal son argent, puis qu'on le voit dans les audits de performance, là, il y a des gens qui vont dire, bien là, prenons la taxe qu'on vient de monter, puis on va la redescendre un peu.
C'est une bonne question. Alors,
c'est une possibilité, ça?
Bien, on ne pouvait pas attendre parce que pour s'inscrire à la question de l'immatriculation, on nous avait donné
la date
du 15 septembre.
Oui.
Mais on sait ce qu'il va y avoir dans les audits. On n'a pas vu le rapport complet, on n'a pas vu le rapport complet québécois, mais le RTC a travaillé avec Raymond Chabot, qui est l'entreprise indépendante qui a fait les audits. On sait c'était quoi les questions. On connaît où on veut s'améliorer. Depuis 2 ans, on a coupé 11 millions en dépenses sur des dépenses qu'on avait avant. On va continuer de faire ce travail-là.
Parce que
il y a des choses qu'on peut améliorer, puis il faut les améliorer.
C'est parce que, M. Ulmer, c'est dur de gober qu'il n'y a pas de marge de manœuvre quand les 2 fois dans l'année où le RTC fait l'actualité, c'est pour des histoires de tasses puis d'adresses Internet à 70 000 par année.
Adresse Internet, c'est pas du gros, là. Que tous les chauffeurs aient une adresse Internet, là, c'est nécessaire. Quand tu veux communiquer avec tes employés, toutes les entreprises font ça.
Oui, mais là, le syndicat, il a levé la main, puis il veut des tablettes, puis il veut des cellulaires, puis il veut du temps de travail pour consulter son courriel.
Il n'y aura pas de tablette, puis il n'y aura pas de cellulaire. Le RTC, comme tout employeur, veut donner des adresses à son monde pour pouvoir communiquer avec eux autres, les informer des changements.
Vous êtes en faveur de ça?
Je pense qu'en 2024, c'est correct d'avoir une adresse liée au travail.
Je sais pas, j'ai un Gmail qui me coûte rien. Je suis assez rejoignable là-dessus.
Oui, mais ça, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent pas donner leur... Tu sais, les gens ont le droit de dire, moi, ça sera pas mon Gmail avec lequel l'employeur va me communiquer. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit respecter.
C'est une vieille adresse, là. C'est limbiscuit69@gmail.com.
Elle est plus con que la mienne.
Mais alors, est-ce qu'il y a des dépenses sur lesquelles on peut faire des révisions? Puis vous m'avez vu sortir quand on a parlé des tasses. La réponse est oui. C'est pas On n'est pas en train de dire qu'il n'y a rien à changer. On est en train de dire que ce n'est pas ça qui va améliorer la desserte du Nord qu'il faut améliorer. Il faut prendre des moyens. Mais on va continuer de réviser nos pratiques. On va continuer de demander au RTC d'améliorer ses pratiques et de couper là où il le faut. Ça ne change pas, ça.
Ça fait quand même longtemps que Denis et moi, on travaille ensemble, qu'on entend ce que les gens disent quand ils sont des utilisateurs du service du RTC. Puis depuis tantôt, les textos rentrent énormément. Des annulations de parcours dernière minute qui font que des parents sont obligés d'aller chercher leurs enfants. Des gens qui travaillent dans les parcs industriels à Québec où des arrêts
mal
ont été retirés.
Oui,
ou qui ont
pas été... Mais mal desservis,
ça, Monsieur Marchand, ça fait au-dessus de 20 ans qu'on en parle dans la région de Québec. Je trouve ça quand même particulier qu'on nous dise on travaille pour améliorer les services, puis que c'est toujours pas arrivé qu'on s'assoie puis qu'on nous dise hey, voici les problèmes qui ont été ciblés, voici les solutions qu'on amène, alors que c'est un peu le jour de la marmotte là-dessus.
Oui, mais moi, ça fait 3 ans que je suis là. Je peux pas parler de pour les 17 ans avant. Alors, il y a des choses sur lesquelles je pense qu'on doit améliorer. Ce que vous nommez, c'est exactement, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut améliorer. Il y a eu des améliorations, par contre, hein, tout n'est pas noir, là. L'arrivée du Flexibus, ça a changé la vie de bien du monde. Il est tellement populaire maintenant qu'il faut continuer de le bonifier parce que là, dans certains secteurs, il y a trop d'attentes. Il faut l'améliorer. Mais il marche, il fonctionne. À vélo, ça marche, ça fonctionne. Il y a eu des initiatives. Puis là, à vélo, là, je vais juste préciser aux gens, là, c'est pas accessible partout. Il faut que ça soit accessible dans toute la ville. Mais présentement, là où il est accessible, dans les journées où on a de bons achalandages, là, on est toujours en train d'enlever 1 000 à 2 000 voitures chaque jour.
Ouais, assurément, en ville, okay? Ça fonctionne très bien.
Exact. Non? 2 000 voitures, là, pour les gens, c'est un peu abstrait. Là. C'est l'équivalent là, des 2 voies sur René Lévesque entre la colline parlementaire et l'Université Laval. De voitures complètement une à la suite de l'autre. C'est du monde qu'on enlève, qui sont heureux de prendre un vélo et qui laissent la place pour ceux qui en ont besoin.
Est-ce que ces gens-là...
C'est pas suffisant, là. Ça peut pas être la seule initiative.
Est-ce que ces gens-là doivent faire leur part? Parce que je vois la question passer souvent en lettres majuscules avec beaucoup de points d'exclamation, là. Mais hausser les tarifs du RTC, charger d'une façon ou d'une autre les gens qui utilisent maintenant les voies cyclables et ainsi de suite. Il y a bien des automobilistes qui se disent « Moi, je paye pour tout, puis je suis un peu tanné, je veux que les autres fassent leur part. »
Si on compare l'argent investi sur les voies cyclables versus ces routes, là, les gens qui utilisent les routes vont s'apercevoir qu'ils ont 95 % de la manne, 97 % de la manne. C'est ça, si on veut aller là, on dit on va charger aux voies cyclables, les autres vont dire la même chose, on va charger aux automobilistes, on va mettre du payage partout, l'automobiliste va être perdant. Ça, c'est pas une solution. Là. Pour l'automobiliste, ça va être encore pire, ça va coûter plus cher que 60 $. C'est pas ça la question. La question, c'est de dire comment on fait pour offrir des options qui font en sorte que tout le monde peut aller où il veut, comme il veut, de façon fluide. Et il y a des options, et il y a des options qui marchent. C'est à ça qu'on travaille.
Là, j'ai-tu compris qu'en plus, vous avez demandé une taxe sur l'essence au gouvernement?
Non, ça, c'est pas vrai. Ça, le gouvernement a dit ça, là, a fui ça dans les médias, mais c'est pas vrai.
Bien là, s'il y a une fuite, c'est qu'il y a une source, c'est qu'il y a un fond de vérité.
Je vous explique.
Oui, s'il vous plaît.
Alors, d'abord, c'est pas moi. La communauté métropolitaine de Québec, c'est 28 mairies. C'est des préfets et c'est des mairies qui représentent 28 municipalités allant de Lévis à la Côte-de-Beaupré, à l'île d'Orléans, à Stoneham, au Nord et à Québec. Les maires disent « on va améliorer les services de nos citoyens ». Ils sont tannés de rentrer en ville, d'être sous la congestion. Ils voient les effets et il y a des citoyens qui nous demandent d'avoir des services, de meilleurs services de transport collectif. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est pas moi, là. Les maires se disent « comment on fait pour trouver des revenus, des ressources? » Et quand tantôt tu parlais de faire payer les usagers, là, 27 % des revenus du RTC viennent des usagers. Ils payent les usagers. C'est pas vrai qu'ils payent pas, là. Puis dans les dernières années, les tarifs ont monté aussi. Ça, c'est pas vrai non plus qu'on dit « Hey, ces gens-là... » Non, ils payent aussi. Alors, revenons aux différents maires et mairesses. Les gens se sont dit « OK, on demande au gouvernement de nous aider à améliorer les transports. On demande au gouvernement de nous aider à ceux qui veulent prendre l'autobus de Château-Richer puis s'en venir ici, de nous aider. » Le gouvernement dit « J'ai pas d'argent. Je vous ai donné des pouvoirs, l'immatriculation et la taxe sur l'essence. Servez-vous-en. » C'est ça qu'il nous a dit le gouvernement. Là. Ça, c'est noir sur blanc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les maires se questionnent, est-ce qu'on devrait mettre une taxe sur l'essence? C'est pertinent, ça rapporte combien? Et ils ont réfléchi, je fais partie de ça, là. On a réfléchi ensemble, à se dire si on le faisait, ça améliorerait comment le service? Alors, le maire de Stoneham s'est cassé la tête, dire, OK, en quoi ça améliorerait le service? Les maires de la Côte-de-Beaupré, de l'île d'Orléans. Et on a une réunion la semaine prochaine où on devait se demander, est-ce qu'on va de l'avant ou pas? Il n'y a rien de décidé, là.
Si le gouvernement vous donne le go...
Il a dit non, le gouvernement.
Oui, mais on jase, là. Si le gouvernement vous donne l'autorisation puis vous donne la permission, c'est-tu de l'argent que vous allez chercher, ça?
Il a dit non, le gouvernement. Mm-hmm. Alors, avant d'aller statuer...
Il a dit beaucoup non, le gouvernement, dans la dernière semaine. On y reviendra.
Non, mais il a dit non. Pourquoi? Pas parce qu'on l'a demandé formellement. On a demandé au gouvernement, c'est vous qui avez le pouvoir de l'autoriser. On est en train de réfléchir. Avant d'aller de l'avant, on veut savoir, si on vous le demande, allez-vous dire oui? Si on vous le demande, on n'est pas là, là. Alors, on a réfléchi à ça, on a posé la question. Ils nous ont dit, on vous dit non, c'est impossible de faire ça. C'est sûr que là, on a un problème. Les gens qui disent non, là, Pierre Poilievre, les gens de la CAQ qui disent « Ah, le maire Marchand, c'est un écœurant. » Parfait, le maire Marchand, c'est un écœurant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit aux gens dans le trafic? Ces gens-là n'ont pas de solution. Là. Je ne vais pas vous charger 60 $, mais je n'ai pas de solution pour tous ceux qui sont pris dans le trafic. La hausse des services qu'on propose, c'est 4 millions d'achalandage de plus, 10% d'achalandage. Si on arrive à ça, on va libérer de l'espace.
Il y a des gens qui ont des questions par rapport à la taxe d'immatriculation que je trouve qui sont quand même logiques. Puis je fais partie de ces gens-là qui ont des motos à la maison en plus des autos. Il y a des gens qui se disent, OK, bien là, si on a, mettons, deux chars, deux motos, ça commence à faire dur sur le portefeuille. Il y a des gens aussi qui nous disent, c'est bien beau, mais si on est dans un petit village non desservi, mettons, est-ce qu'on va être aussi taxé?
C'est juste Québec. C'est juste la Ville de Québec qui fait
puis
la taxe d'immatriculation.
Puis pour ce qui est des motos...
C'est par plaque, mais ça, c'est une détermination de la SAAC. Là. Fait que s'il y a deux voitures, deux motos, ça va avec l'immatriculation de chacune.
Mais la question du territoire demeure, M. Marchand, parce que c'est un des défis de la Ville de Québec. C'est une ville qui est très étendue. Il y a des automobilistes qui disent « Moi, le RTC ne se rendra jamais chez nous, puis il faut que je paye pour ça, puis je trouve ça tough. »
Dans le cas de la Ville, il va se rendre. Ce qu'on est en train de faire, c'est pour le Nord. On n'est pas en train de faire ça pour le centre-ville. On est en train d'améliorer les services là où il y en a le plus besoin pour permettre à des gens de se déplacer fluidement et rapidement. C'est ça qu'on fait. Alors, il va se rendre dans toute la ville. Quelqu'un qui habite à l'extérieur de la ville, il n'y aura pas ces services-là, c'est sûr.
Pensez-vous qu'on approche du point de rupture? Il me semble que les dernières rentrées d'argent de la ville, ça vient souvent de la poche des contribuables, ça vient des
Vous
gouvernements. Je pense à la taxe sur l'immatriculation, je pense aux médailles de chat, je pense à différents
non,
éléments.
Non, les médailles de chat, on ne fait pas d'argent avec
non,
ça, on vous l'avait
je
prouvé.
Comprends, mais
vous faites 25 $ par chat, selon mon calcul primaire.
Ouais, mais tu sais combien ça nous coûte? Là?
Combien ça coûte?
Ben, il y a un coût énorme à gérer la question des chats. Là. Pourquoi on le fait? Mais parce qu'on couvre une partie des frais. Les gens qui ont un chat, notamment en litière, en matière de gestion des matières résiduelles, ça a un coût énorme.
Là, on va arrêter de poser des questions parce que ça va être 50 $ par chat.
Non. Alors, il y a un coût administratif à le faire, mais on ne fait pas d'argent avec ça. Là. On ne fait pas ça pour faire de l'argent. Là. On fait ça parce qu'il y a un coût pour les chats, notamment... Puis ça, vous allez me dire, moi, c'est pas moi parce que je garde mes chats, mais ceux qui les libèrent, qui les abandonnent. Juste la gestion de la SPCA avec les chats, là, ils sont submergés de chats qui sont abandonnés. Alors, il y a un coût à ça. Là. C'est pas vrai que ça coûte pas quelque chose.
Mais au-delà des chats, le contribuable a l'impression ces temps-ci qu'on le met beaucoup plus à contribution. Quand c'est pas l'argent des contribuables, là, vous dites, la taxe sur l'immatriculation, on n'a pas eu le choix. Le gouvernement provincial nous donne pas plus de sous. Ça demeure nos taxes, ça demeure nos impôts. C'est quoi le plan de la ville pour essayer d'avoir de l'argent neuf qui provient pas des contribuables, qui provient pas des paliers de gouvernement puis qui provient pas des entreprises qui sont installées à Québec?
Donc, il va
Notre développement économique, il est où?
Bien, notre développement économique, on y contribue, là. On a un bon développement économique. C'est pas pour rien que...
Actuellement, on nous dit que c'est le pire depuis plusieurs années dans la région de Québec.
Non, c'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on parle, c'est du PIB. Mais le PIB, ça reflète pas tout le développement économique. Le PIB, c'est la croissance totale. Le revenu par habitant à Québec, il est plus élevé que la moyenne québécoise, plus élevé que la moyenne canadienne et plus élevé que bien des villes au Québec, dont Montréal.
Oui, mais il faut viser encore plus haut. Mais c'est quoi le plan de développement économique?
J'abandonne pas ça. Il faut viser plus haut, puis on vise la croissance économique, puis on va continuer de faire des annonces. Les banques, ce qu'ils me disent présentement, il y a de l'argent à Québec, les gens sont, pour plusieurs, pas tous, en bonne posture. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on s'assoit là-dessus. La question du PIB, pourquoi elle a un impact différent? C'est que, notamment, on accueille ici moins de gens qui viennent d'ailleurs que les autres grandes villes. Alors, quand tu accueilles 50 000 immigrants, bien, nécessairement, ça contribue à ton PIB global. Au final, la richesse par individu n'est pas aussi grande. Ici, la richesse par individu, elle est plus grande qu'ailleurs. Le revenu libre dans les poches des gens, même si l'inflation frappe et fait mal, c'est vrai, là.
Les gens, parce que moi, vous dire que les textos qu'on reçoit, le monde ne se sent pas bien.
Ils ne sentent pas riches, là.
Non, mais je ne suis pas en train de dire qu'ils sont riches. Là. Je te parle en comparaison avec d'autres. Après impôt, il y a plus d'argent ici qu'il y en a ailleurs au Québec ou au Canada dans la moyenne. Pas que toutes les villes, mais que la moyenne. Alors, ici, ça coûte moins cher se loger, mais ça a augmenté. On est un des endroits où ça a augmenté le plus. Ça coûte moins cher se loger qu'à Montréal, qu'à Vancouver, dans les grandes villes canadiennes. Je ne parle pas des petites villes. Est-ce que c'est une raison pour arrêter? Non. Le développement économique, on y travaille, on a des projets qui s'en viennent, on a des annonces qui s'en viennent. Vous me parlez de la question des taxes. On est la ville qui a haussé le moins les taxes de toutes les grandes villes québécoises. dans les trois dernières années, ça a été une promesse que j'ai faite, la croissance des taxes a été moins élevée qu'à Lévis, qu'à Montréal depuis plusieurs années, depuis que je suis là.
Puis vous y croyez à votre engagement malgré l'augmentation du rôle foncier de dire on ne dépassera pas l'inflation, le 3,3% quand on va y arriver. Puis vous n'arriverez pas un peu comme avec la taxe sur l'immatriculation en disant bien là, on n'a pas le choix, on manque encore d'argent. On essaie d'avoir un gros filet social à Québec. Là.
Mais il rapporte à tout le monde, ce filet social-là. Là. Quand on a un gros filet social, qu'on prend soin du monde, il rapporte à tout le monde. Mais je l'ai promis, puis je vous le dis, là, présentement, l'inflation du mois d'août au mois d'août sur un an, là, pas par comparaison de mois pour mois, c'est 3,3%. Bien, la hausse de taxes, elle va être en bas de ça. Je l'ai promis et ça va être le cas. Et ça a été demandé, on est en train de travailler le budget, là, ça va être le cas, je vous le jure.
Monsieur le maire, je veux qu'on parle de tourisme un peu. Du vôtre, plus précisément. Combien de temps va durer votre prochain voyage, finalement?
Bien, on est en train de le finaliser. On ne l'a pas annoncé complètement parce qu'il y a des choses qui bougent.
Mais est-ce qu'il peut encore porter l'étiquette du plus long voyage en durée de l'histoire de l'hôtel de ville?
Il paraît que c'était 11 jours. Là, ça va tourner autour de ça. Mais le but, c'est pas un voyage. Là.
Les gens le voient comme ça.
Ben oui, mais les gens le voient comme ça. On fait des choses qui rapportent à la ville.
Qu'est-ce qu'on peut faire dans un voyage? Expliquez aux auditeurs, qu'on peut faire dans un voyage qu'on ne peut pas faire sur Zoom ou sur Teams,
mettons. Pour mon loisir, là,
ouais.
Je ne le ferai pas. Je ne reviens pas de voyage que tu appelles voyage. Là. Je ne reviens pas de mission avec ce sentiment où je suis allé me prélasser, où je suis allé... Non, non. C'est 14 heures par jour, ça commence tôt le matin, ça finit tard le soir.
Qu'est-ce que la ville de Québec rapporte de ça?
Des événements, des retombées économiques, des liens avec des entreprises qui veulent s'établir ici, de la business, attirer des gens. Quand j'ai la chance, puis j'en ai pas fait beaucoup là, par rapport au maire précédent, j'ai une moyenne de moins de missions annuellement que lui. Là.
C'est juste que vous êtes allé à New York récemment, ça fait jaser.
OK, mais ça fait... 3 ans que les oppositions disent qu'il faut que j'aille aux États-Unis. Quand je vais aux États-Unis, c'est pas une bonne idée. À un moment donné, peu importe ce que je vais faire, quand je vais à New York pour parler d'économie sur le port, c'est pas une bonne idée, le maire n'aurait pas dû y aller. Quand je rencontre le maire de New York, depuis 20 ans, il n'y a aucun maire de Québec qui avait rencontré le maire de New York, c'est pas une bonne idée. Les liens qu'on a faits, notamment en sécurité, ils vont être payants pour la ville. Ils vont être payants pour notre service de police. Il y en a plein de liens comme ça. C'est bon, puis je pourrais partir en mission toutes les semaines. Je pourrais faire 52 missions par année tellement on a d'invitations. On les restreint, comme j'avais dit depuis le début, à maximum 4. Les dernières années, on était plus à 2-3. Je n'ai pas fait de mission. La dernière, c'était Boston, puis avant, ça date de novembre passé. On fait un choix judicieux pour que ça soit payant pour la ville. La prochaine, elle tourne autour de quoi? Elle tourne autour du patrimoine. On a des enjeux autour du patrimoine. On va travailler avec des villes qui nous aident à apprendre et à accélérer notre protection de patrimoine. Toutes les mesures qu'on a faites en patrimoine, ce qui ne se faisait pas avant, on les a faites aussi en apprenant des autres. Ça nous aide à accélérer. Alors, après ça, on va faire des liens, puis je ne veux pas tout dévoiler maintenant, là, on va le faire en temps et lieu. On va amener ici des événements et on va chercher ces événements-là en mission. On ne peut pas faire ça sur Teams. Et ça a de l'impact, ça a des retombées. C'est pas vrai que c'est du loisir, là. C'est pas ma première mission, là. Puis il n'y a rien de ça qui se compare à se prélasser, à avoir du fun. J'y vais avec, somme toute, là, le minimum de dépenses possible. Non, je ne mange pas aux frais de la ville d'un grand restaurant, c'est pas vrai. Ils ont fait sortir mes factures, puis les journaux qu'ils ont fait sortir, puis les radios qu'ils ont fait facture, tout ce qu'il y avait à dire de mes factures, c'est pour un gars en forme, vous mangez souvent du fast-food. Je veux que ça coûte pas cher.
Okay.
Point, c'est tout.
Ça se fait vraiment pas virtuellement?
On en fait déjà beaucoup, là. Quand les gens pensent qu'on n'en fait pas, on en fait énormément. Beaucoup de rencontres qu'on fait virtuelles. Là, c'est pas vrai qu'on n'en fait pas. Tout ce qu'on peut faire virtuel, on le fait. Il y a des choses... Quand on m'invite, par exemple, à aller parler à un forum économique pour parler de la vision de la ville, puis en inspirer d'autres, puis peut-être attirer ici des talents, si je suis en présence, ça fait une différence. Mais on ne fait jamais un voyage, une mission pour ça. On fait une mission pour beaucoup de choses qui deviennent payantes les unes avec les autres. Voyager pour aller faire une chose, c'est pas suffisant. On cumule les intérêts pour multiplier les retombées au Québec.
Est-ce que la ville a tardé dans le dossier de la bouchée généreuse? Puis est-ce qu'on retient une leçon de la façon que c'est en train de se régler?
Non, on n'a pas tardé.
Non?
Non. Le résultat est bon. C'est le résultat qu'on souhaitait.
L'idée n'est pas venue de l'hôtel de ville. L'initiative est venue de l'entreprise privée.
Tout à fait. Et ça a permis de débloquer des choses qui étaient importantes pour nous.
Y a-t-il un message à passer par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un modèle ou un exemple à suivre? Parce qu'on parle souvent de cohabitation dans certains milieux, puis on dirait que le modèle qu'on connaît depuis 20-30 ans, c'est les entreprises d'un bord qui développent, qui ne consultent pas le milieu. Là, moi, j'ai vu quelque chose de beau.
C'est vrai.
Collaboration. Puis je comprends que vous êtes déborder à l'hôtel de ville, mais de voir des situations qui arrivent, des solutions, pardon, qui arrivent d'ailleurs, ça peut aider dans bien des dossiers, particulièrement pour des dossiers comme ça où il y a du monde qui ont faim et qui ont besoin de bouffe.
Alors, la mission généreuse sert une mission importante. Ils servent vraiment de la bouffe à du monde qui en ont besoin. Mm-hmm. Ça, il n'y a personne qui conteste ça. Maintenant, on a mis de l'argent, les Trudel ont embarqué, le gouvernement du Québec a embarqué. Tu as tout à fait raison que c'était un méchant modèle. Il ne pouvait pas se faire juste par le privé, puis il ne pouvait pas se faire juste par le public. Pourquoi? Parce que...
Si les Trudel s'impliquent pas, est-ce que le dossier est encore sur votre table présentement?
Probablement.
Probablement. Ben oui, parce que triste en battant.
Oui, mais il faut trouver un lieu. Mm. Le lieu, là, la ville, quand on disait on peut mettre ça à exposité, oui, temporairement, pas à long terme. Là, ils ont trouvé une solution à long terme qui va leur permettre de reconstruire leur bâtiment et pendant ce temps-là, ils n'auront pas redéménagé 6 fois. C'est coûteux pour ces gens-là de déménager. Quelque chose qui était important pour nous, il n'y aura plus de file d'attente à l'extérieur. Ça, c'est fondamental. Là. Du monde qui vient chercher à manger, qui attend dehors, puis je blâme personne. C'était ça, la réalité. On voulait que ça, ces éléments-là, ce travail, bien, avec la solution proposée par les Trudel, on y arrive. On a tous mis des billes ensemble, puis on est arrivé à une solution. Après ça, le temps, puis William Trudel l'a expliqué, le temps de dire, on va faire à cet endroit-là une place pour la bouchée généreuse pendant 3 ans, là, ça a pris des mois à évaluer ça. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas placer un organisme communautaire en disant, bien, c'est pas grave si on n'a pas vérifié les gicleurs, si on n'a pas vérifié s'il n'y a pas de la contamination. Il y a des éléments techniques à vérifier, puis ça coûte de quoi, ça prend du
temps.
Mais
pourquoi vous ne sortez pas pour nous tenir au courant de ces affaires-là? Parce qu'on dirait que ce que ça a donné comme impression, c'est que si les frères Trudel n'avaient pas été là, il n'y aurait jamais eu de solution.
Bien, en fait, si les frères Trudel, si le gouvernement du Québec, si la ville, si la bouchée généreuse n'avaient pas travaillé ensemble, il n'y aurait pas eu de solution. Ça a pris plusieurs partenaires pour trouver une solution, dont la ville. Et on sort pour le dire. C'est pas vrai qu'on sort pas, puis on veut rendre ça plus assidu, mes présences ici, puis je vais revenir toi et moi comme on s'est donné, on va le faire. Mais oublions pas, là, que quand on fait des points de presse, puis je blâme personne, là, on finit toujours par parler de tramway puis de troisième lien. C'est pas parce qu'on parle pas d'autre chose, mais ce qui ressort, c'est ces deux gros dossiers-là qui sont des trous noirs, qui finissent par tout bouffer, puis c'est là-dessus qu'on finit par jaser périodiquement une fois après l'autre. Et quand on parle de ça, ça n'a pas la retombée médiatique.
On va mettre Jeff espérée. Là-dessus.
vous avez un ministre de la Sécurité publique.
Ah, mais je blâmais pas Jeff en passant, là. C'est comme ça partout. Ça attire ces dossiers-là comme des trous noirs, et ça finit qu'on finit par parler de ça. Il y a des gens qui disent « Pourquoi vous parlez juste à moi? J'en parle presque pas. » Mais ce qui sort, c'est ça. On parle de d'autres choses. La ville, c'est pas juste ça. Mais
à date, on n'est pas pire, je trouve. On a parlé de plein d'autres affaires encore.
C'est vrai.
Je m'en allais justement sur la sécurité parce que c'est un enjeu grandissant, inquiétant à Québec. Le ministre de la Sécurité publique refuse de donner des sommes supplémentaires.
Il dit que c'est pas un enjeu à Québec.
On a bonifié dans d'autres villes. Votre relation avec le gouvernement n'est pas bonne.
Ça dépend des dossiers. Tu sais, tu peux pas prendre le gouvernement comme un bloc monolithique. Alors oui, avec la sécurité publique, présentement, on ne s'entend pas. Il dit que c'est pas grave ce qu'il y a à Québec, puis ça ne se compare pas à ce qu'il y avait à Montréal. Moi, j'ai dit on n'attendra pas d'être à où Montréal était avant de prendre le taureau par les cornes.
Qu'est-ce qu'on a fait avec les sommes qu'on a octroyées jusqu'à maintenant?
Mais les sommes qu'on a octroyées, ce n'était pas dans ce cadre-là. Il parle de programme, vous parlez du 40 millions.
Pour oui, lequel du 40 dit, millions,
dans
exact.
Un autre cadre que le 220 millions qu'il a donné à Montréal. Il y a plein d'affaires là-dedans. C'est pas le même cadre du tout. Alors oui, on a des ententes avec la sécurité publique. Là, c'est pas de ça qu'on parle. On parle du crime organisé. Il nous dit la SQ peut faire le travail. C'est pas la SQ qui fait le travail, c'est nos policiers ici. Puis j'ai rien contre la SQ, là. C'est le SPVQ. Ça veut pas dire qu'il travaille pas avec la SQ. On a un bon corps policier. Maintenant, ça prend des ressources. On va travailler à ça. On va le voir dans le prochain budget, mais on va travailler à ça. La sécurité, c'est important.
Avez-vous hâte que Sam Ahmad se présente officiellement?
Bien sûr.
Oui?
Ben oui. On peut pas avoir deux propositions plus différentes. Alors les gens vont avoir du choix.
Présentement, il y a un sondage. Vous avez vu le sondage, évidemment. Vous disiez que vous étiez satisfait des chiffres de ce sondage-là. C'est un sondage qui nous montre que l'opposition n'existe pas ou à peu près pas à Québec. Ouais. Et pourtant, votre taux de satisfaction n'est pas en haut du 50 %. Je trouve ça inquiétant, tabarnouche.
Vous parlez pour moi que c'est inquiétant?
Oui, oui.
Non. Denis, on amène des changements. C'est plus facile faire de la politique puis pas amener de changement puis dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Mais au final... Quand on regarde ça, des années plus tard, parfois, on paye le prix. On parlait tantôt de congestion. C'est plus facile pour moi, aujourd'hui, un an des élections, de ne pas le faire. Puis vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait pour la congestion? Puis je vais dire, bien, c'est la faute du gouvernement du Québec, puis je vais m'en laver les mains, puis les gens vont être encore pognés. Et si on ne fait rien, là, rappelons-nous, on ne fera rien l'an prochain. Là. On ne fera rien 3 mois des élections. Puis l'année d'après, si on décide de faire de quoi, ça va prendre encore 6 mois à être fait. On va tolérer que les gens soient 2 ans et demi là-dedans parce que c'est pas populaire. Moi, je suis en train de leur dire... Puis vous avez raison de dire, on jugera l'arbre à ses fruits. Là. C'est quoi la preuve, puis ça marche-tu? Mais je suis en train de dire, je refuse de rester les bras croisés. Puis oui, parfois, c'est pas populaire. Oui, on amène du changement qui inquiète ou qui questionne. Je refuse, comme maire, d'être ce politicien qui fait « Ah non, non, si ça dérange, on fera rien. » Alors, c'est sûr qu'en faisant des changements, les gens font « Oui, je suis pas sûr. » Mais prenons l'exemple de ce qu'on a fait dans plusieurs éléments. Là. Il y a bien des gens qui nous disent « Au début, je n'étais pas confiant. » Je réalise que ça donne du bon, puis ça amène beaucoup de bon.
C'est quoi la différence entre la guerre à l'auto et la guerre à la congestion?
Bien, c'est énorme.
Il y a des gens qui ne voient pas, la différence.
Mais je comprends, parce qu'il y a des gens qui se perpétuent à dire qu'à chaque fois qu'on fait un move, c'est contre l'auto. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai que présentement, et vous m'avez jamais entendu dire, contrairement à certains autres, que les gens devaient quitter leur voiture. Vous m'avez jamais entendu dire ça. Je porte pas ce message-là et je le pense pas. La mobilité moderne, c'est pas de dire aux gens « vous aurez pas de voiture », c'est de dire aux gens « je vous fais confiance de déterminer quel est le moyen de transport qui est le meilleur ». Mais si on n'offre pas d'option de mobilité, là, vous êtes pris sur Laurentien, puis ça vous prend une demi-heure de plus, vous rentrez chez vous. Vous êtes pris sur Henri IV, vous êtes pris sur Pie XII. C'est ça qui m'écœure. Alors, la guerre à la congestion, c'est de dire aux gens « on va donner des moyens, des façons de se déplacer, puis après ça, vous allez choisir, vous êtes intelligent, c'est pas moi qui va le faire pour vous ». La guerre à l'auto, c'est de dire on va tout faire pour faire en sorte que d'écœurer l'automobiliste. On n'a jamais pensé ça, on ne fera jamais ça.
Bruno Marchand, merci beaucoup.
Merci de l'invitation.
À la prochaine chicane.
On se revoit bientôt.
16h52 à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour. Vous êtes nombreux à réagir, je vais aller vous lire un peu. 418-971-1021.
Gravel dans le retour.
Garantie de 20 ans. Décourant, c'est maintenant. Rendez-vous sur décourant.com ou foncez à nos bureaux à Québec, Lévis et Saint-Apollinaire.
Alerte bonne bouffe en ce jeudi de paye. Il y a une nouvelle poutine à saveur country qui est arrivée chez Benny et compagnie. Une poutine avec les fameuses frites ondulées, le fromage en grains du Québec, les cornichons, une tonne, mais une tonne de bacon, et évidemment du bon poulet Benny et compagnie, tout ça enrobé de la sauce à côte levée traditionnelle. Je salive un petit peu. Si le souper ne tente pas ce soir, il y en a des options. Que ce soit le familial pour 4 personnes, l'éco-familial junior, ou bien le poulet en entier, Benny a tout plein d'offres pour ton souper en famille. Rendez-vous au restaurant ou sur l'appli Benny et vous allez découvrir les promotions. Il y en a beaucoup sur l'application. Plusieurs succursales Benny & Compagnie, Beauport, Limoilou, Cap-Rouge, Charlebourg, Lévis, Saint-Apollinaire, Les Saules et celles sur l'avenue Belvédère. On t'attend avec impatience. Benny & Compagnie, une généreuse histoire de famille depuis 1960, commandée sur benny-co.com.
Fou de la bouffe, c'est le choix.
16h58 à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Commotion sur les textos, évidemment, quand on jase avec le maire Bruno Marchand, mais c'est rien comparé à la commotion dans les corridors de Leclerc Communication.
Moi, je pense me rediriger en protection. En politique, je pourrais... On doit être deux.
Ça va te
protéger le maire.
Le personnel féminin de Boulevard 102.1 et de Week-end 91.9 fait beaucoup de va-et-vient. Parce que l'équipe de sécurité du maire attire l'attention. Vous l'avez vu passer dans l'actualité.
Ouais,
là,
les gars du GTI qui l'accompagne depuis quelques jours.
Deux beaux bonhommes, comme qu'on dit.
Ça, c'est ça.
Bon. L'uniforme, hein?
Ma tante Pinchot est bien énervée. C'est comme... Non, mais c'est impressionnant. Tu te dis, on va faire attention au maire, tu sais. Ou pas, tu sais, peut-être que...
Elle rentre en mode fantasme assez vite. Hein?
Rarement vu une fille se désorganiser.
Faut que je fasse semblant de l'attaquer.
Mais pour vrai, c'est drôle parce qu'une fois de temps en temps, tu vois que c'est quoi? C'est le phénomène groupie un peu. Tu sais, quand Marc Dupré se promenait dans un corridor, il y avait comme un petit.
Une effervescence,
Une petite effervescence. Matt Duff, c'était comme la Beatlemania. T'as eu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Cantal qui est venu, évidemment, ben, premièrement, c'est de par son...
Il en imposait.
De par son allure, c'est un gars qui retient beaucoup l'attention, mais il y avait des gens qui avaient hâte de le voir. C'est toujours le fun dans ce temps-là, mais là, c'est vraiment deux hommes de sécurité en uniforme qui font se palmer les demoiselles.
C'est quelque chose.
Hey, beaucoup de réactions concernant l'entrevue. Évidemment, elle sera disponible pas mal partout. Là.
Oui, bien là, je suis en train de la sortir sur les YouTube de ce monde. Okay. Ça va être sur le belvd.fr.
Parfait. Je vous rappelle comment...